Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Combien coûtera votre paquet de pâtes l'année prochaine? C'est à partir de ce matin et pendant les trois prochains mois que les prix dans les rayons des supermarchés vont se négocier entre industriels et grandes distributions. Qui veut quoi? À quoi s'attendre? On vous détaille tout ça ce matin en cette matinée spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Le maire de Saint-Étienne sera-t-il condamné? Question ce matin, il y aura la réponse dans la matinée dans la retentissante affaire du chantage à la sextape. Et sommes-nous dans les temps? Avant les JO d'hiver en 2030, inspection générale du CIO, vous verrez à partir de ce matin dans les Alpes.
C'est parti pour trois mois de débats, souvent tendus, parfois même brutaux.
Entre les industriels et la grande distribution, qui vont donc négocier à partir de ce matin et jusqu'à fin février, les prix de tous les produits, pâtes, poulet, fromage, café, que l'on paye dans les rayons des supermarchés, que l'on paye de plus en plus cher d'ailleurs, puisqu'il n'arrête pas d'augmenter depuis la rentrée. Victor Joannin, c'est vous qui allez suivre ces négociations pour RMC. Expliquez-nous très concrètement, qui veut quoi dans ces négos?
Eh bien, selon les toutes premières remontées, les fabricants industriels comme Fleury Michon ou Bonduel, mais aussi les géants mondiaux comme Heineken ou Nestlé demanderaient 2% de hausse en moyenne tout produit confondu pour compenser l'augmentation de leur coût de production. En face, les distributeurs devraient demander une baisse et au final, dans vos caddies, la hausse devrait être contenue. C'est en tout cas l'estimation de Nicolas Facon, le président de l'ILEC, la Fédération des grandes marques.
Aujourd'hui, on est revenu à une inflation qui est très très modérée. Depuis le début de l'année, elle est à plus 1% en fait sur les produits dans la consommation, plus 1,3 pour être très précis. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que si inflation il y a, elle sera contenue, elle sera modérée.
Sachant qu'attention, les prix finaux dans les rayons dépendront de chaque enseigne, les enseignes qui se livrent une guerre des prix sans merci.
Alors on sait que généralement ces négociations sont très tendues avec des fuites habituelles dans la presse quand on arrive vers la fin. Cette année, tout le monde s'est entendu, tout le monde a signé une charte qui est censé apaiser les tensions.
Oui, une charte de bonne conduite impulsée par le gouvernement et signée hier dans la toute dernière ligne droite. Cette charte doit permettre aux PME françaises de négocier en premier avec la grande distribution avant les grandes marques. Elle engage le secteur à valoriser les produits frais et locaux et enfin elle encourage toutes les parties à préserver un cadre de négociation serein, par exemple en évitant les rendez-vous annulés à la dernière minute ou les appels au milieu de la nuit, parce que oui, ça existe. Cette charte est non contraignante, donc avant tout symbolique, mais c'est un bon signal pour apaiser les tensions entre les industriels et la grande distribution.
Voilà pour toutes les explications ce matin, signé Victor Joannin, entrant en cette matinale spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Autre négociation du moment, celle autour du sort de la guerre en Ukraine. Il y a de bonnes chances que ça aboutisse. Voilà ce qu'a dit Donald Trump durant la nuit, après une réunion aux États-Unis entre Américains et Ukrainiens, et avant une autre demain en Russie, entre Russes et Américains. Cette fois, Volodymyr Zelensky, lui, est de retour à Paris. Ce matin, il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron pour s'assurer du soutien une nouvelle fois des Européens. Nouvelle semaine de discussion qui commence autour du budget pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui va enchaîner les rendez-vous avec responsables politiques et partenaires sociaux, alors que le budget de la Sécu sera de retour à l'Assemblée demain. En attendant, il écrit une lettre aux entrepreneurs publiée ce matin dans laquelle il dit que plus que la fiscalité, le vrai danger pour le pays est l'absence de budget. Alors, puisqu'on parle de la sécurité sociale, grand changement ce matin, la Sécu rembourse désormais à 100% les fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, avec des restes à charge qui souvent étaient exorbitants. Emmanuel Macron avait promis de changer ça. Il se félicite de réparer, je cite, une injustice énorme. Et c'était très attendu par les premiers concernés, Solène Leroux.
Le prolongement de son corps, c'est ainsi que Liliane, atteinte de sclérose en plaques, voit son fauteuil depuis près de 50 ans. C'est un compagnon coûteux.
Un fauteuil de plus de 15 000 euros.
Jusqu'ici remboursé en partie tous les 5 ans par la Sécurité sociale, avec des avances de frais, de nombreux dossiers à remplir.
C'est bien entre 6 et 7 demandes.
Et ce, à chaque renouvellement, et surtout des frais supplémentaires de 5 à 7 000 euros à payer de sa poche. Impossible avec une allocation handicap comme seul revenu. Liliane, comme beaucoup, s'est tournée vers des associations.
Qui vous donnent par petits bouts. Moi, j'ai toujours le sentiment de mendier. Je ne supporte pas ça. Je trouve que c'est très humiliant de devoir demander.
Alors, ce remboursement intégral, Liliane l'accueille d'un mot.
Ouf ! Me dire demain, je peux faire autre chose que de rester là-dessus, angoissée, de me dire comment je vais faire pour financer mon fauteuil. J'aurais pu ça.
L'assurance maladie s'engage à valider le devis pour un fauteuil et toutes ses potentielles options médicales en 2 mois maximum. Si ce délai n'est pas respecté, le fauteuil sera alors automatiquement remboursé. Liliane attend de le voir pour le croire.
On est le 1er décembre ce matin et on est à 100 jours tout pile du premier tour des élections municipales. Et Jordan Bardella du RN dénonce une brutalisation du débat démocratique. Après s'être fait écraser un œuf sur la tête durant le week-end dans le Tarn-et-Garonne, visé par un septuagénaire qui était placé en garde à vue, récidiviste, hein, puisque ce septuagénaire avait fait pareil à Éric Zemmour en 2022. Et alors à 100 jours des élections municipales, le sort du maire de Saint-Étienne va se jouer ce matin au tribunal correctionnel de Lyon, où les juges vont rendre leur délibéré dans la retentissante affaire du chantage à la sextape. Une partie de l'équipe municipale à Saint-Étienne accusée d'avoir piégé le premier adjoint de l'époque en le filmant avec un escort boy. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC. Le maire Gaël Perdriaux à Saint-Étienne clame son innocence, mais le jugement tout à l'heure pourrait être lourd de conséquences.
Oui, il risque carrément de la prison ferme et d'être empêché de se représenter au municipal si le tribunal suit les réquisitions de la procureure. À l'audience fin septembre, elle avait réclamé 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Ce qui veut dire que même s'il faisait appel, Gaël Perdriaux serait privé de scrutin municipal. En attendant, comme depuis le début de cette affaire de chantage à la vidéo intime contre son ex-premier adjoint, l'actuel maire de Saint-Étienne affiche sa sérénité. Hier encore, sur Facebook, il pointait une absence de preuves, en dépit d'un dossier pourtant accablant, des aveux de ses collaborateurs à la barre et de plusieurs enregistrements compromettants. Comme lui, 3 anciens membres de son entourage risquent également de la prison ferme.
Je vous signale que le bilan des inondations s'alourdit encore ce matin en Asie du Sud-Est. D'après les secours, il dépasse désormais les 1000 morts, plus de 500 rien qu'en Indonésie, et toujours autant de disparus. On reparle des Jeux Olympiques d'hiver, ceux de 2030 qui vont se dérouler dans les Alpes. Pourquoi on en reparle? Parce que le CIO, le Comité International Olympique, entame ce matin une visite de 3 jours dans les Alpes avec des étapes à Val d'Isère, à Courchevel et au Grand Bornand. Léna Marjac, vous allez tout nous dire pour RMC. C'est un peu une inspection des lieux pour voir si tout va bien avant 2030.
La carte des sites est quasiment finalisée à 95%, mais le boss d'Alpes 2030, Edgar Gros-Piron, doit encore répondre à certaines questions. Déjà, quel sport additionnel? Selon nos informations, le trail et le ski freeride pourraient faire leur entrée, même si les fédérations des sports d'hiver se sont unies pour contester l'arrivée de sports d'été comme le trail. Quid de la patinoire, prévue à Nice et construite dans le stade de football? Cette structure est farouchement critiquée, déjà par son coût, plus de 100 millions d'euros, mais aussi par raison écologique. Et enfin, une dernière inconnue persiste. Où sera l'anneau de vitesse utilisé pour le patinage de vitesse? La France ne dispose pas d'une structure pareille. 2 options se présentent à Edgar Gros-Piron et ses équipes. Délocaliser ses épreuves soit sur l'anneau de Turin en Italie, soit utiliser celui des Pays-Bas.
Et puis c'est Lens qui est en tête de la Ligue 1 de foot ce matin. 21 ans que c'était pas arrivé pour les Lensois vainqueurs à Angers 2-1 hier, qui profitent en fait des faux pas de Paris et de Marseille. Deuxième et troisième respectivement à l'issue de la 14e journée Ligue 1.
C'était le journal de Quentin Vinet.